VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est midi à Kinshasa. Bonjour à tous. La justice sud-africaine a ordonné au président Jacob Zuma de rembourser une partie des 16 millions de dollars de fonds publics utilisés pour la rénovation de son domicile privé. La décision intervient alors que les autorités enquêtent sur un autre scandale plus récent lié toujours au président Zuma. Le chef de l'État sud-africain est soupçonné d'avoir fait des faveurs dans l'attribution de marchés publics à la riche famille Gupta. Moïse Katumbi sera le candidat du G7 à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. L'ancien gouverneur du Katanga a été désigné par cette plateforme de l'opposition au terme de son conclave tenu à Kinshasa. On écoute Olivier Kamitatou, l'un des membres du présidium du G7 au micro de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa.
Nous avons considéré la situation actuelle du pays qui est marquée par de grandes menaces, de grands dangers. Parce que depuis très longtemps, depuis le début de l'indépendance de notre pays, nous ne sommes pas parvenus à asseoir une démocratie, un État réellement démocratique. Nous ne sommes pas parvenus à construire une économie prospère. Nous ne sommes pas parvenus à éradiquer la pauvreté, à améliorer les conditions de vie des populations.
Au Tchad, l'opposant Ngarledi Yoronga, dont la candidature à la présidentielle du 10 avril prochain a été rejetée, monte au créneau. Dans une déclaration hier soir, il appelle ses militants à faire un vote sanction contre le président sortant Idriss Déby Itno. On écoute Ngarledi Yoronga.
Le FAR Parti Fédération ne saurait rester en marge de cette aspiration irréversible vers l'alternance tant attendue par les Tchadiens. Bien que la plupart d'entre eux sont d'anciens ministres d'Idriss Déby ou collaborateurs patentés, le FAR Parti Fédération appelle ses militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, et partant le peuple tchadien tout entier, épris de paix et de changement, de voter en leur âme et conscience le candidat de l'opposition qu'ils jugent crédible, toujours égal à lui-même. Le FAR se réserve le droit de donner des consignes de vote sans équivoque pour le candidat de l'opposition qui arriverait au second tour. L'alternance démocratique amorcée ne serait possible que par le vote sanction du candidat MPS, Idriss Déby Itno.
Ngarledi Yoronga au micro de notre envoyé spécial à N'Djamena, Bagassi Koura. Et toujours au Tchad, le procès des quatre leaders de la société civile n'a duré qu'une vingtaine de minutes aujourd'hui. L'audience a été renvoyée au 7 avril. Juste avant le renvoi, le juge Ahmed Mustapha avait ordonné l'évacuation du public de la salle.
VOA Afrique en direct de Washington.
Présidentielle au Niger, la Cour constitutionnelle a validé les résultats du second tour du 20 mars, la réélection du président sortant Mahamadou Issoufou avec 92,51% des voix est donc confirmée. L'opposant à Mahamadou a recueilli, lui, 7,49% des voix. L'opposition affirme qu'elle ne reconnaîtra pas M. Issoufou comme président à partir de vendredi, date de la fin de son premier mandat. La Cour suprême d'Ouganda a rejeté aujourd'hui un recours contre l'élection du président Yoweri Museveni à la présidentielle du 18 février, faute de preuves soutenant les accusations de vote multiple. Le recours avait été déposé le 1er mars par l'ancien premier ministre Amama Mbabazi, qui était arrivé en troisième position derrière Yoweri Museveni, réélu pour un cinquième mandat, et le principal leader de l'opposition, Kizza Besigye. À Djibouti, campagne en roue libre pour le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. En poste depuis 1999, le chef de l'État djiboutien est presque assuré d'être élu lors de l'élection présidentielle du 8 avril. Depuis le début de la campagne le 25 mars, l'opposition est plus discrète et surtout morcelée. L'Union pour le salut national, l'USN, une coalition de sept partis politiques créée en janvier 2013, a éclaté après s'être déchirée sur sa stratégie. À peine arrivé à Tripoli, le chef du gouvernement d'Union nationale libyen, soutenu par l'ONU, est sommé par les autorités non reconnues de parti. Les précisions de John Lydon.
Fayez al-Sarraj est arrivé en Tunisie mercredi avec 6 membres du conseil présidentiel. Il a été accueilli à la base navale de Tripoli par des hauts gradés de la marine et des responsables locaux, dont Aref El-Khoja, ministre de l'Intérieur du gouvernement de Far Libya. Son arrivée a été suivie par des tirs intermittents dans la soirée. Les artères principales de Tripoli ont été bloquées par des membres de groupes armés. Ceux qui sont arrivés illégalement et clandestinement doivent se rendre ou revenir sur leurs pas, a déclaré dans une allocution télévisée Khalifa El Gouel, chef du gouvernement non reconnu, en dénonçant comme illégal le gouvernement de Sarraj. L'émissaire de l'ONU en Libye, Martin Kobler, s'est félicité de l'arrivée de Fayez al-Sarraj, parlant d'une étape importante dans la transition démocratique en Libye. Il a appelé à un transfert de pouvoir pacifique.
Et fin des cavales pour le cerveau des attaques terroristes de 2015 dans le sud du Mali. Souleymane Keïta a été arrêté à la frontière avec la Mauritanie par les forces spéciales de la DGSE malienne. Avant lui, certains de ses lieutenants avaient été arrêtés en juin 2015 après les attaques de Fakola et Misseni à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. En Somalie, 6 personnes, dont 2 employés humanitaires turcs, ont été abattus par balles par des inconnus en voiture à Mogadiscio, selon les autorités somaliennes. L'attaque s'est déroulée mercredi soir et parmi les tués figurent notamment le chauffeur et les gardes de sécurité des 2 Turcs. Lors d'un autre incident, 4 personnes ont été tuées mercredi lors d'un échange de tirs entre unités rivales de l'armée somalienne à Mogadiscio, selon des témoins. Début aujourd'hui à la Maison-Blanche d'un sommet sur la sécurité nucléaire. Plus de 50 pays vont discuter des menaces et des moyens de les prévenir. Lionel Gaïma.
Les attaques de Bruxelles viennent de rappeler combien des groupes comme l'État islamique peuvent être dangereux. Cette menace fera l'objet d'une attention particulière pendant ce sommet à Washington. Josh Earnest, porte-parole de la Maison-Blanche. Il sera centré sur la menace globale, mais évidemment, l'accès du groupe État islamique à du matériel nucléaire est quelque chose que nous devons éviter. Ce sera certainement un point de discussion. Depuis les attaques de Bruxelles, la Belgique a placé des soldats autour des installations nucléaires. Le Pakistan, qui vient de subir une attaque meurtrière à Lahore, est une puissance nucléaire, tout comme la Corée du Nord, qui, malgré son isolation, annonce régulièrement des tests nucléaires pour faire peur à ses voisins. Aux précédentes rencontres, les leaders avaient examiné comment baisser l'utilisation de l'uranium enrichi, protéger les matériaux vulnérables et éviter la contrebande du nucléaire et le terrorisme. Victor Cha s'occupe de la Corée au Centre d'études stratégiques. Ces sommets ont heureusement créé un environnement international qui renforce les normes et pratiques en matière de sécurité et d'opération. Cependant, beaucoup de questions sont toujours sans réponse. Sharon Squassoni du programme de prévention de la prolifération nucléaire au Centre d'études stratégiques.
L'objectif global était de sécuriser les matériaux nucléaires les plus vulnérables en 4 ans. Je pense, sans risque de me tromper, qu'il y a eu beaucoup de progrès, mais je ne pense pas que nous ayons atteint cet objectif.
La question est d'autant plus épineuse que la plupart de ces matériaux, dits vulnérables, sont dans des stocks militaires. La Russie a refusé de faire le déplacement, disant que ces sommets ont déjà fait leur temps. C'est le dernier sommet pour Barack Obama, qui a son second et dernier mandat. Quelle sera la suite lorsque son successeur prendra ses fonctions en janvier prochain ? Josh Earnest, porte-parole de la Maison-Blanche. J'espère que le prochain président comprendra que sécuriser des matériaux nucléaires vulnérables à travers le monde est une priorité en matière de sécurité nationale des États-Unis. Pour la Maison-Blanche, un des objectifs de ce sommet sera aussi de renforcer les organisations internationales pour qu'elles continuent de travailler sur la sécurité nucléaire dans le monde.
Merci Gaïma. L'armée turque a catégoriquement démenti aujourd'hui avoir toute velléité de coup d'État pour chasser du pouvoir le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan, dénoncé pour sa dérive autoritaire, comme l'ont affirmé certains médias étrangers. La discipline, l'obéissance inconditionnelle et une seule ligne de commandement sont à la base des forces armées turques, a affirmé l'état-major des armées dans une déclaration très inhabituelle publiée sur son site internet. L'armée n'a pas précisé à quelles informations de la presse elle faisait référence, mais a promis des démarches judiciaires contre toute information non fondée. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque. Jean-Roger Billon à ce micro. Je vous retrouve demain. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.